Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, préparé cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Il fut non seulement un chef majeur du XXe siècle, mais également une personnalité rayonnante. Il sera le bâtisseur, en 1918, de l'orchestre de la Suisse romande et en restera le chef titulaire jusqu'en 1967. Soit pendant 49 ans, et il fera de cet ensemble l'une des institutions majeures de son époque, avec des témoignages discographiques qui résonnent aujourd'hui toujours parmi les références. En lui confiant la direction musicale des Ballets Russes, de 1915 à 1923, Diaghilev facilitera sa reconnaissance avec des tournées dans le monde entier. En 1922, il fondera également avec Alban Berg et Anton Webern la Société internationale pour la musique contemporaine en Europe. Mais il fut d'abord professeur de mathématiques. Une passion qu'il gardera toute sa vie en la liant intimement à ses réflexions sur le sens de la musique. Un homme discret, humble, simple, éloigné du vedettariat et du luxe, indifférent au succès superficiel. Celui qui fabrique des stars médiatiques dont se nourrissent aujourd'hui les frères Capuçon. Ernest Ansermet était né à Vevey en 1883 et devait nous quitter à Genève en 1969. À partir de 1967 jusqu'en 1970, Paul Kletzky, compositeur et chef polonais, pour qui nous avons la plus grande considération, devait diriger l'orchestre, puis, de 1970 à 1980, l'inoubliable Wolfgang Sawallisch. C'est la version officielle, mais il y a dans ce tableau une défaillance de mémoire, une courte période que l'on a invisibilisée. En effet, il semblerait que Carlos Paita se soit installé en 1968 à Genève à la demande d'Ernest Ansermet, qui le pressentait comme son successeur. Mais sur le site de l'orchestre, très fourni en archives, il n'est jamais fait mention d'une telle période. Et le maestro argentin y est totalement inexistant. Or, nous avons la certitude qu'il fit une quinzaine de concerts exceptionnels, avec l'admiration des musiciens et l'irritation des responsables administratifs. J'ai contacté plusieurs fois la direction actuelle à ce sujet, qui n'a apporté aucune réponse. J'ai néanmoins la preuve de l'existence du passage de Carlos Paita, et pour démarrer cet hommage à Ernest Ansermet, je propose que nous écoutions l'unique archive que j'ai pu trouver de cet effacement. Nous sommes en 1970, lors d'un concert avec le poème symphonique « La pastorale d'été » d'Arthur Honegger. L'orchestre de la Suisse romande est placé sous la direction de Carlos Paita. Il s'agit pour moi d'une interprétation d'une densité et d'une profondeur inouïe. Pourquoi cela semble gêner à ce point ? Pour le moment, je l'ignore.
Thank you.
Ernest Ansermé cherchait constamment à justifier de sa légitimité dans ses fonctions et s'interrogeait beaucoup à travers la philosophie et les mathématiques. Il écrivit un ouvrage remarquable de discernement dont on se désintéresse en France. Vous comprendrez pourquoi. Les fondements de la musique dans la conscience humaine. Très érudit, avec des formules complexes et peu accessibles, il organise également sa réflexion autour de la musique contemporaine. Lui qui fut un ami de Stravinsky. Je vous en lis quelques passages. L'homme occidental, en tant qu'être psychique, entre dans un tunnel. Car c'est pour l'homme entrer dans un tunnel et dans la nuit que d'avoir perdu conscience du fondement du sens des choses et de celui de sa propre existence. On nous affirme que Boulez a du génie, mais sa musique n'emporte aucune trace. Il ne suffit pas d'être capable d'écrire de la musique ou d'improviser une fugue pour donner la preuve d'un talent. Il y a d'innombrables prix de Rome qui n'ont jamais composé une œuvre digne d'attention. Savoir manier les sons comme Boulez, posséder une technique électronique et imaginer des structures nouvelles n'est que de l'ingéniosité. Boulez est sûrement très intelligent, mais sa musique ne manifeste que suffisance et prétention. Il est ainsi devenu célèbre sans que la plupart des gens n'aient jamais entendu sa musique. Ce fut un encouragement pour tous ceux pour qui elle est une affaire commerciale. Boulez a inventé la marchandise musicale. Les agences officielles de tourisme et les services de propagande se sont mis de la partie, destinés avant tout pour l'étranger, afin de prétendre avoir droit à l'appui de l'État. Boulez a toujours considéré sa représentation à l'étranger comme une propagande nationale. Stravinsky me disait « peu importe ce qu'il dit, pourvu qu'il parle ». Afin de fêter les 100 ans de la disparition de Pierre Boulez sur France Musique, Christian Merlin diffusa le chant du Rossignol de Stravinsky, interprété par Ernest Ansermé. Pourquoi pas ? Nous allons le retrouver, ainsi que l'orchestre de la Suisse romande, avec le 3e concerto pour piano de Bartok, avec Julius Katchen au piano. En 1953, le compositeur l'écrivit mourant, alité, et ne put terminer les 17 dernières mesures sur 1200. Et laissera des instructions à son ami Tibor Serli afin d'achever l'ouvrage. À l'écoute, à l'aveugle, cette version n'est pas la plus racoleuse ni la plus saisissante et pourrait totalement passer inaperçue. Pourtant, elle exprime l'essentiel, avec une générosité d'âme qui était la priorité de ces artistes, donc particulièrement introvertis. En ce sens, elle devrait être classée monument historique. Thank you.
Thank you.
La symphonie de psaumes de Stravinsky est une œuvre marquante, probablement l'un des sommets de la musique occidentale. On imagine souvent Stravinsky frivole, inconséquent et sans aucune foi. Il était pourtant d'une profonde religiosité. Et il existe une vidéo dans laquelle il fait exécuter cette œuvre au Vatican, en 1965 devant Paul VI. Et à la fin, le pape se lève et vient vers lui. Stravinsky, chancelant avec sa canne, car il ne parvient pas à rester debout, ni même à trop marcher, s'agenouille devant le pape, en tremblant et avec une profonde dévotion, et lui accroche les mains pour l'embrasser. C'est pour lui une consécration de faire jouer sa symphonie de psaumes ici devant le pape. Une fois de plus, Ernest Ansermet évite de contaminer par des amplifications qu'il ne saurait assumer et qui d'ailleurs ne lui ressemblent pas. Il demeure presque scientifique pour ne pas détourner les intentions. Pour cela, évidemment, certains peuvent lui reprocher un manque d'engagement et d'investissement. Il s'agit surtout d'une attitude morale. D'autres interprétations parviennent à une profonde émotion plus enracinée, plus durable, plus intense, que je peux également préférer. Mais cette option distanciée, allégée, débarrassée de toute charge dramatique, mérite d'être connue, au moins pour sa sincérité.